Le journal vous est présenté par Boris Loumagne.
Bonjour à tous. Un anniversaire en grande partie gâché par les violences, alors certains gilets jaunes comptent sur cet après-midi pour mettre en lumière leurs revendications. Nous serons à Paris dès le début de ce journal. Nouvel épisode de violence à Hong Kong. Un policier a été blessé par une flèche non loin d'un campus où les étudiants sont particulièrement mobilisés. En Biélorussie, les électeurs choisissent leur nouveau député, mais dans un pays où l'opposition est muselée, il n'y a pas de grande surprise à attendre. Et puis nous terminerons cette édition sur une note de poésie, poésie arabe. Plus particulièrement, c'était la nuit de la poésie à Paris. Un anniversaire dans la fumée des grenades lacrymogènes pour les gilets jaunes. Près de 30 000 personnes ont manifesté hier selon la police, un an après le déclenchement du mouvement. 254 interpellations partout en France. Des heurts ont éclaté à Nantes, Toulouse, Marseille et Paris. Alors la situation sera-t-elle apaisée aujourd'hui? Plusieurs actions sont prévues dans le pays. Cyril Ardot, vous êtes place de la Bastille à Paris.
Ah oui, et pour l'instant c'est très calme sur la place de la Bastille avec seulement une petite trentaine de manifestants qui sont rassemblés. Il y a eu tout de même une scène pour la moins surprenante ce matin, ça s'est passé vers 11h, il y avait alors seulement une quinzaine de manifestants gilets jaunes. Ils ne faisaient pour ainsi dire rien, ils étaient juste là, ils avaient accroché une banderole et attendaient, ils ne se rendaient même pas de slogans, ne provoquaient vraiment aucune perturbation. Quand une centaine de policiers sont arrivés en moto, écoutez, Sophie Tissier, elle est gilet jaune, elle raconte ce qu'elle a vécu, elle est encore sous le choc.
On a vu donc un escadron sur une cinquantaine de mètres de long et on les a vus arriver donc juste devant nous là, et puis voilà, tous descendus de moto, ils nous ont encerclés, on était cernés. Ah mais c'est hallucinant là, c'est la milice, c'est impressionnant, j'ai le cœur qui bat, je suis effrayée de voir comme ça qu'on se fait fouillé, positionné contre la rambarde, c'est vraiment excessif quoi.
Un dispositif donc impressionnant, sans doute un petit peu démesuré, disent les gilets jaunes. Le contrôle et la fouille ont duré à peine 4 minutes. Les policiers sont ensuite repartis, sans interpellation, sans saisie non plus. À présent, il y a un petit peu plus de manifestants, ils sont une trentaine on disait, qui se préparent donc à défiler à partir de 13h, direction la place Saint-Pierre dans le 18e arrondissement de Paris.
Cyril Ardot et Frédéric Kérou pour les moyens techniques. Merci à vous deux. Le président du Modem à l'Assemblée nationale réclame l'organisation d'une grande conférence sociale. La tribune dans le Parisien, co-signée par les membres de l'UDI et de l'Union centriste. Le thème de cette conférence, les inégalités salariales. Les signataires réclamant que le travail paie mieux. Une façon peut-être pour le Modem, allié du gouvernement, de calmer les ardeurs des manifestants avant la grève interprofessionnelle du 5 décembre. L'arrivée au pouvoir d'un homme à la poigne de fer au Sri Lanka. Le pays marqué par de violents attentats il y a 6 mois a donc placé à sa tête un ancien militaire. Gotabaya Rajapakse vient de remporter la présidentielle avec 55% des suffrages. Il est notamment accusé de violations massives des droits de l'homme lors de la guerre contre les séparatistes tamouls en 2009. 6 mois de contestation à Hong Kong et chaque jour son nouvel épisode. Hier, l'armée chinoise faisait une sortie remarquée dans les rues et aujourd'hui de violents affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Un policier a même été blessé par une flèche près du campus de l'université polytechnique. La nuit est tombée maintenant, les étudiants refusent de quitter le campus. Ils sont cernés par la police anti-émeute. À l'intérieur de ce campus, le reportage de Dominique André.
Des barrières de fortune faites de morceaux de fer barrent l'accès à la célèbre université de Polytechnique à Hong Kong. Des pierres et des briques jonchent le sol pour empêcher les véhicules de police de pénétrer. À l'intérieur du campus, des centaines d'étudiants habillés en noir, protégés par des imperméables transparents, masques à gaz sur le visage, armés de parapluies et de cocktails Molotov, attendent une nouvelle intervention de la police. Certains dorment, épuisés par le blocus. Ils refusent de partir malgré les injonctions des policiers qui ont déjà tenté de les déloger sans succès. Un jeune étudiant.
Today, our protesters stay here to protect our campus.
Je suis un contestataire. Je reste là pour protéger notre campus de Polytechnique. Les policiers viennent d'amener un canon à eau. Ils nous demandent de partir. La nuit dernière, la police a tiré beaucoup de gaz lacrymogène. Mais nous restons pour nous battre.
Un pasteur arrivé de New York fait une déclaration.
Je suis un pasteur, j'aime Jésus et je suis là pour dire que l'Amérique protège la démocratie. Je suis là pour protéger la démocratie et la liberté.
they are here any police brutality.
Stop anything like that.
So we're here just to support democracy and freedom.
Dans la foule, un homme pro-Pékin hurle fucking États-Unis, rentre chez toi. Il est immédiatement insulté par les gens du quartier. Un vieux monsieur proteste. À Hong Kong, on est bien élevé, dit-il. La tension est vive sur le campus, mais aussi parmi les habitants qui, après 5 mois de crise, sont divisés.
Une semaine après la démission d'Evo Morales, situation toujours explosive en Bolivie. 4 personnes ont été tuées hier dans des manifestations. Les affrontements opposent les partisans de l'ancien chef d'État socialiste aux forces de l'ordre, et ce depuis que la sénatrice de droite Jeanine Agnès a pris le pouvoir. Depuis le début de la crise, 23 personnes ont été tuées. Des élections sans grand suspense mais qui ne manquent pas d'intérêt au Bélarus. Les électeurs appelés à élire leurs nouveaux députés. L'assemblée sortante, elle, est composée de fidèle du président Loukachenko. Et ce nouveau scrutin ne devrait rien y changer. Alexandre Loukachenko dirige le pays d'une main de fer. L'opposition est muselée, même si l'homme fort du Bélarus a récemment tenté un rapprochement avec l'Union européenne pour difficilement se dégager de la férule de Vladimir Poutine. À Moscou, Claude Brouillot.
Un quart de siècle plus tard, Alexandre Loukachenko tient toujours les rênes du pouvoir. Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle donne. À l'issue de ces législatives anticipées, la partie se joue ailleurs pour le président du Bélarus, qui tente surtout de réduire la dépendance de son pays avec celle du grand voisin russe. Régulièrement invité au Kremlin pour écouter Vladimir Poutine lui vanter les avantages pour le Bélarus d'une intégration accentuée sur le plan économique et militaire, Alexandre Loukachenko fait mine d'adhérer. Il obtient quelques prêts supplémentaires de Moscou qui vont lui servir par exemple à acheter des avions de combat Sukhoi, alors même que le Bélarus vend des camions militaires à l'Ukraine. Dans le même temps, Minsk se bat pour écouler ses productions agricoles en Russie aux grandes dames des producteurs russes, concurrencés par des marchandises moins chères mais qui ne respectent pas toujours les normes de qualité. Cette semaine, pour faire contrepoids, Alexandre Loukachenko s'est rendu en Autriche comme pour démontrer sa liberté de mouvement vis-à-vis du Kremlin. « Nous sommes prêts à accueillir davantage d'investisseurs de l'Union européenne », a précisé l'intéressé, avant de revenir assister sans doute aujourd'hui à la victoire de son camp dans un scrutin qui, comme les précédents depuis 25 ans, risque en l'absence de représentants de l'opposition d'être jugé une nouvelle fois inéquitable par les observateurs internationaux.
Les explications de Claude Brouillot. Nouvelle marée haute attendue dans les prochaines heures à Venise. 3e aqua alta de la semaine. La Sérénissime a été placée en état d'urgence ce matin. L'événement avait été créé en réponse aux attentats du 13 novembre. Une manière d'opposer l'art aux barbares. 4e édition de la nuit de la poésie, la nuit dernière à l'Institut du Monde Arabe. Du coucher de soleil au lever du jour, des performances artistiques, des concerts et des lectures sur le thème de la culture arabe. Lina Taghi a passé une partie de la soirée là-bas.
Dans la bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe, le groupe Parabole donne une représentation. Il y en aura 3 autres tout au long de la nuit. Pour ces jeunes artistes, ce moment est symbolique et fort en émotion.
Connaissant l'histoire de cette nuit qui a été créée suite aux attentats
de novembre 2015,
Je pense que l'histoire et l'atmosphère que porte cette nuit sont particulièrement spéciales et touchants.
Jean et Khadija ont assisté à une lecture de poèmes. Pour eux, le défi est relevé.
Il y a la poète qui lisait en arabe et l'autre qui lisait en français. Mais j'ai tellement senti d'émotion, c'est trop bien.
Au départ, j'étais un peu sceptique. Répondre aux attentats par la culture, c'est une bonne chose, mais il risque d'y avoir un amalgame entre la culture arabe et le terrorisme, encore une fois. Mais en venant, j'ai beaucoup apprécié.
C'est notre mission à l'Institut du Monde Arabe.
Marie Descourtieux, responsable des actions culturelles.
De faire connaître et aimer la culture du monde arabe, donc la poésie en langue arabe, en langue française, en langue des signes, en danse, en musique.
C'était la 4e édition de la Nuit de la Poésie et d'autres sont à venir. Apprendre à connaître la culture arabe, c'est essentiel pour Jack Lang, président de l'Institut.
La poésie est pleinement liée à la langue arabe, donc il est normal qu'elle soit ici, dans ce lieu, l'Institut du Monde Arabe, qu'elle soit vraiment aimée, célébrée, respectée, chantée, récitée sous toutes ses formes.
Le reportage de Lina Taghi. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure à présent de la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. 160 pays réunis à Nairobi à l'invitation du Kenya et du Danemark viennent de décider de consacrer 9 milliards de dollars sur 10 ans pour atteindre trois objectifs. Éradiquer la mortalité maternelle et les mutilations génitales, combattre les violences basées sur le genre et soutenir les actions de planning familial, notamment l'accès à la contraception. La France a promis 908 millions d'euros pour ce programme d'action en faveur des femmes et le Kenya de se fixer zéro mutilation génitale d'ici 2022. Après le droit à la santé, le droit à la politique, de nombreux États adoptent des lois pour ouvrir les institutions, à commencer par les assemblées, aux femmes. La supériorité écrasante masculine dans les représentations populaires est jugée assez anachronique pour que le Parlement béninois, par exemple, décide d'augmenter le nombre de députés. Il passe de 83 à 109 sièges, dont 24 sont réservés aux femmes, selon la règle d'une femme par circonscription électorale. Dans le monde arabe, la Tunisie s'est imposée comme un modèle d'égalité homme-femme. Depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, en passant par le printemps arabe, les Tunisiennes ont acquis des droits d'équité. Pour autant, elles restent défavorisées dans l'héritage, par exemple, et en politique, la parité recule. La présence des Tunisiennes dans la nouvelle Chambre des députés s'est réduite. De Tunis, le reportage de Maureen Mercier.
Première séance plénière au goût pour les femmes tunisiennes, terriblement amère. Elles ont perdu un tiers de leur siège au Parlement. Jamais les députés n'ont été si peu nombreuses dans l'hémicycle depuis la Révolution. Jamila Ksissi est députée du parti islamiste Ennahda.
Je suis vraiment désolée pour la situation de la femme. On a passé de 76 femmes à 49. C'est la honte pour la Tunisie. Ça ne rassemble pas à la Tunisie qui a toujours milité pour les droits de la femme.
Elle a réussi à sauver son siège et celles qui n'ont pas été réélues sont encore bien plus écœurées, comme Rim Makloub qui regarde dépité les hommes déambulés trop nombreux dans les couloirs de l'Assemblée.
Il n'y a que des hommes. Voilà. Malheureusement, c'est un recul. C'est vraiment un Parlement qui a rétrogradé par rapport au précédent. On va vivre des moments difficiles.
Celles qui ont réussi à se faire élire assurent qu'elles se battront de plus belle, qu'il faut à tout prix voter une loi pour une parité totale, seule manière de lutter contre une société encore bien trop patriarcale. La députée islamiste fait de cette bataille sa priorité.
Je vais mobiliser toutes les femmes au sein du Parlement et à la société civile pour défendre l'initiative législative pour instaurer la parité horizontale et verticale au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. C'est ma priorité.
En Tunisie, depuis la Révolution, le pouvoir est entre les mains du Parlement, bien plus que dans celle du président. Ces 5 prochaines années, il sera très masculin et conservateur. Dans cette configuration-là, il n'y a par exemple aucune chance pour que la loi pour l'égalité homme-femme en matière d'héritage ne passe. La Tunisie, qui a toujours été un exemple en matière d'égalité homme-femme, rétrograde.
Le droit à la religion est une liberté pas toujours, tant s'en faut, accordée aux femmes. L'Inde est secouée par une polémique autour de l'accès des Indiennes au temple de Sabarimala dans l'état de Kerala, dans le sud du pays. Sur place, Kombastin.
Situé à la pointe sud du sous-continent, le temple hindou de Sabarimala fait l'objet d'une dispute nationale depuis 30 ans. Les femmes de 10 à 50 ans n'y ont pas droit de citer, leur menstruation pouvant troubler Ayyappa, le dieu célibataire qui y est vénéré. La légende raconte que Ayyappa a délivré une femme d'un démon, qu'il attend désormais de l'épouser et doit donc être préservé de la tentation. Mais l'année dernière, une gigantesque chaîne humaine de femmes s'est formée sur 620 km pour protester contre cette discrimination. Des heurts ont éclaté avec des fidèles hindous tenant de l'interdiction avant que la Cour suprême ne la déclare finalement anticonstitutionnelle. Ce verdict a, à son tour, généré plusieurs pétitions demandant à la Cour de revenir sur cette autorisation, pétitions sur lesquelles elle devait à nouveau trancher ce jeudi. Verdict ? Eh bien, pas de verdict. Les sages indiens ont décidé de remettre leur décision à plus tard, en faisant appel à un panel de juges élargi. En attendant le jugement final, le temple reste ouvert aux femmes. Mais pourquoi tant d'allers-retours dans l'état du Kerala, pourtant dirigé par un front de gauche laïque ? Parce que cette décision pourrait faire jurisprudence dans bien d'autres temples, de toutes les confessions, qui pratiquent eux aussi des entrées sélectives en fonction du sexe des fidèles. Derrière Sabarimala, c'est donc le rapport entre sexe et religion qui est questionné partout en Inde. L'occasion rare dans ce pays de voir des hindous et des musulmans unis derrière une même cause, pour sexiste qu'elle soit.
Et on termine avec le droit à la séduction, que Scheherazade cesse de plaire et sa voix se taira à jamais. L'héroïne des Mille et Une Nuits est sur scène en ce moment au théâtre de l'Odéon à Paris. À dimanche prochain.
Nadine Epstein, merci. La météo pour cet après-midi, de la pluie, voire de la neige à basse altitude sur le nord-est du pays. Encore des averses au sud de la Garonne. Les températures iront de 5 à 10 degrés.